Oui. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion, de partage ce soir, je trouve que c'est un petit peu délicat, mais vous allez... Quand l'idéal devient souffrance, alors qu'est-ce que ça recouvre, cela?
Voilà, alors c'est un mot qui paraît abstrait, bien qu'on sait tous ce que c'est qu'un idéal, finalement.
Oui.
Sans trop savoir lequel. Enfin, pas toujours.
Pas toujours.
Mais ce qui est important, c'est que ça concerne aussi beaucoup de situations vécues.
Oui.
Parce que tout le monde a besoin d'idéal ou d'idéaux. Alors déjà, oui. On voit qu'il y a des nuances entre un idéal, des idéaux.
Oui.
Parce que ça nous motive, ça nous incite à avancer. Mm-hmm. Ça donne aussi du sens à notre vie.
Oui.
Du sens, dans le sens de direction.
Oui.
Voilà, et ça fait partie de la nature humaine d'avoir des idéaux, de toute façon, quoi qu'on fasse. Mmh. Et la perte d'un idéal, d'ailleurs, est souvent douloureuse. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre nature.
Ça donne sens dans la direction, mais sens aussi de signification.
Aussi dans à la fois la direction et en même temps la signification quand la personne s'aligne sur la direction.
Oui.
Parce que il peut y avoir aussi un sens de relecture de son histoire. Qui donne une signification qui n'est pas forcément en lien avec l'idéal. Mais tout cas, ça donne un sens quand la personne s'aligne dans la direction de son histoire.
C'est ce qu'il y a de mieux, non? Ou c'est s'aligner finalement, il y a une unification dans ce cas-là, non?
Alors, on verra. Le mieux, c'est souvent l'ennemi du bien. Alors, on va voir, pas forcément. Tout dépend de la conscience de son idéal, de où on place la barre, et s'il est un peu utopiste, par exemple, ou à l'inverse, s'il est réaliste, en tout cas plus, même si un idéal est fait pour pas être tout à fait accessible, sinon ça serait idéal. Mais en tout cas, faut pas qu'il soit non plus trop exigeant.
Voilà. Donc on voit quand même, c'est délicat.
C'est délicat, oui, c'est un thème un peu délicat, en tout cas, qui nécessite, mais ça fait partie de la nature humaine, qui nécessite de trouver un équilibre entre son idéal, ce qu'on est, nos possibilités humaines qui sont limitées. Donc, forcément, on ne peut pas être idéal, ni atteindre l'idéal.
Oui. Alors, on va parler de ce rapport. Alors, ça va être surtout le rapport à l'idéal qui est...
Oui, c'est pas tant l'idéal qui est en cause, c'est d'abord le rapport à l'idéal. Il y a aussi la notion d'idéalisation qui est utilisée. On va voir que c'est différent.
C'est encore différent.
Quelque chose de différent. Et puis, dans le rapport à l'idéal, il y a comment il est intégré à l'humanité. C'est-à-dire comment en nous, dans notre personnalité, cet idéal s'est intégré ou pas bien intégré, parce qu'on verra que c'est quelque chose qui se construit dans l'enfance et qui évolue, bien sûr, avec le développement de l'enfant. Donc, mieux il est intégré et plus ça va bien se passer. S'il est mal intégré, ça risque de donner des complications.
Donc il y a des nuances quand même, on disait l'idéal et les idéaux aussi, ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le fait d'idéaliser, qu'on regarde souvent avec une connotation négative, quand on dit quelqu'un il idéalise, souvent c'est qu'on considère ça d'une façon un peu négative. Voilà, et
c'est pas très ajusté,
pas très ajusté à la réalité, en tout cas. Et c'est un peu ces différences-là qu'on va regarder, clarifier. Mmh. On va regarder aussi les conséquences dans la vie, parce que finalement, c'est ça qui est important dans la vie de chacun.
Oui.
Parce qu'elles peuvent être multiples et différentes. Ça peut aller d'un sentiment de plénitude. Mmh. Quand la personne a l'impression de s'approcher de son idéal, elle va se sentir heureuse, ressentir un bien-être, parfois de l'excitation. Ou à l'inverse, quand elle s'en éloigne, ça peut mener à la dépression. En tout cas, quand il y a une perte par rapport à l'idéal, ça peut mener à la dépression. Parfois même à la mort, quand on pense à certains suicides de gens qui perdent leur situation idéale et qui se suicident, par exemple. Voilà, et puis entre les deux, il peut y avoir tout un tas de petits problèmes psychologiques qui peuvent se greffer.
Alors, on va essayer de voir tout ça ce soir. Alors, je pense... Le vrai problème, c'est moins... Enfin,
oui, c'est pas tant l'idéal en lui-même, puisqu'on en
a tous besoin.
Besoin.
Oui, c'est pas l'idéal,
mais
oui.
C'est plus... C'est le rapport de l'individu, de la personne, à son idéal.
Ah, oui.
Et je dis bien à son idéal, et non pas...
Ah,
alors, ça peut être aussi à un idéal collectif, mais dans ce cas-là, l'idéal collectif, il vient en quelque sorte remplacer l'idéal de la personne.
Ça peut être si on s'enroule dans une, je sais pas, dans un parti ou non, quelque chose comme ça. Dans un parti où on fait partie de...
Voilà. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, les valeurs portées par le parti viennent rejoindre et
se mettre... Quelque chose de personnel.
Quelque chose de personnel et du coup prennent place d'idéal dans la personne.
Oui. À ce moment-là, il y a une intégrale, il y a quelque chose de... oui.
Voilà, alors.
D'harmonieux, puisque quand personnellement on trouve aussi un groupe aussi auquel.
D'ailleurs, on a besoin de trouver des groupes qui portent les mêmes
valeurs,
idéaux, les mêmes valeurs que nous.
Bien sûr.
Qu'on a besoin de.
On n'est pas seul,
on a besoin d'appartenir.
Oui.
D'être en lien.
En société. Donc c'est plutôt le rapport de l'individu à l'idéal qui peut poser problème.
Poser problème, si c'est pas toujours le cas, mais parfois ça peut arriver.
Alors on va voir d'abord ce qu'on peut entendre par idéal. Hein.
Voilà.
Comment peut-on définir l'idéal?
Alors, de différentes façons. D'abord, j'ai regardé dans le Larousse, enfin le Larousse Internet, maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Et donc, il donne comme définition qui est conçu par l'esprit. Donc, c'est pas quelque chose de concret, de matériel. C'est conçu par l'esprit, par l'intelligence. Qui a le caractère d'une idée, qui existe seulement en tant qu'idée, c'est une conception de la pensée, une spéculation, et non pas dans le réel.
Ah.
Donc, voilà,
il y a quelque chose, il y a déjà un problème, là, c'est le rapport à quelque chose de...
Alors,
parce que si c'est pas dans le réel...
Il y a le rapport à quelque chose d'abstrait qui est de l'ordre de la pensée, mais qui n'est pas réel. Et on verra
c'est
ça.
C'est pas réaliste, quoi. Enfin, c'est quelque chose de.
Oui. Qui n'existe pas.
Qui n'existe
justement.
Pas. Une illusion, quelque chose.
Parce que c'est un idéal, ça n'existe pas.
Alors qu'un idéal a besoin de s'incarner, non, je sais pas. On va voir. Bon.
Voilà. Alors il continue.
Oui.
À qui on prête toutes les qualités, toutes les perfections, qui est considéré comme parfaitement adapté à son rôle ou à sa fonction. Alors, c'est pour ça que ça peut pas exister, puisque c'est dans la perfection. Or, la perfection sur Terre, elle n'existe pas.
Elle n'est pas de ce monde, oui.
Voilà. Et comme synonyme, il donne théorique et imaginaire.
D'accord, théorique et imaginaire.
Voilà.
Mais ça paraît... Ça paraît pas très... Ces définitions, elles paraissent pas très positives. Enfin, elles paraissent abstraites, alors, un peu planantes, enfin, je sais pas.
Voilà, c'est, sans... bon, en même temps, c'est la définition du Larousse. Je crois que ce qu'ils veulent faire ressortir, c'est que le côté, d'abord, que c'est un peu imaginaire ou théorique, que c'est une vue de l'esprit, que ce n'a pas de réalité, justement parce que c'est quelque chose de parfait.
Ah oui.
Et que, comme la perfection n'existe pas, eh bien, l'idéal ne peut pas exister concrètement, réellement.
C'est toujours à atteindre, un idéal.
C'est quelque chose à atteindre. Mmh. Ça peut être un objectif qu'on se fixe, mais qu'on ne pourra finalement jamais atteindre parce que, on ne peut pas être parfait.
Mmh.
Dans cette vision-là.
Dans cette vision-là, oui. Bon. C'est pas forcément... ça, c'est le Larousse. Hein, c'est une définition, bon.
C'est une définition, en fait, qui dit que c'est une conception qui représente la perfection dans un domaine donné, finalement.
Oui. Mais quand on dit c'est l'idéal, enfin bon...
Voilà. On se dit, c'est ce qu'il y a de plus parfait ou de mieux dans un domaine.
D'accord.
Mais en même temps, qui est difficilement atteignable.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi que...
Que chacun se forge sa propre idée de ce qu'il peut être dans son domaine de prédilection. Le chrétien, il a son idéal chrétien qui est la sainteté, par exemple. Pour d'autres personnes qui ne seraient pas chrétiens, ils auraient d'autres idéaux. Certains, ça va être peut-être président de la République, parce que c'est peut-être ce qui représente
dans son esprit, ce qu'il y a
un idéal d'homme. Pour d'autres, ça va être un grand sportif. Pour d'autres, l'idéal, chacun porte le sien en fonction de ses affinités, quelque part.
On avait parlé quand un adolescent, par exemple, se fait, pour grandir, a besoin d'un idéal, d'un modèle même.
Il a besoin d'un modèle. Son idéal, d'ailleurs, la construction de son idéal, dont on parlera après, va passer d'abord par les parents.
Bien sûr, ce sont
les premiers modèles de l'enfant, mais ça va passer aussi par des héros de bande dessinée, de films, de romans, par des professeurs que l'enfant va mettre progressivement, en tout cas il va en intégrer les qualités pour former son idéal.
Ouais, parce que quelque part il admire ça. Et donc c'est positif en ce sens que ça l'aide à...
Alors c'est positif quand il s'agit d'en intégrer les qualités.
C'est ça.
Quand il s'agit de devenir comme, c'est pas toujours positif.
Imiter, c'est pas imiter.
Voilà,
oui.
Quand c'est imiter, parce que ça arrive par exemple qu'il y ait des adolescents qui vont imiter quelqu'un pour être pareil, parce que c'est leur idéal.
Mais ils ne sont pas eux-mêmes.
Ils sont dans une imitation. Et du coup, ça les dévie d'eux-mêmes. Par contre, percevoir les qualités d'une personne, dire, tiens, j'aimerais bien avoir telle qualité, parce que cette personne a cette qualité, et je trouve ça bien.
Ça incite à la développer,
ça aide à construire sa personnalité, et ça, c'est positif.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, ce soir, nous parlons de l'idéal, mais on va voir, on a donné comme titre, quand l'idéal devient souffrance. Alors, l'idéal, c'est bon, mais on va voir...
Parfois, ça peut occasionner de la souffrance.
Merci Pascal Parinet. Donc je rappelle le téléphone 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre à partir du sujet de notre soirée. Et nous écoutons tout de suite, c'est Benjamin Biolay et ça s'appelle, on parlait des parents, l'héritage, ton héritage.
Radio Notre-Dame.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux des amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les attends. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères tout blancs, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille. Avant qu'il te laisse en plan, si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge au sang, si tu as peur de la foule, mais supporte les gens, si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule. Mon enfant, ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans.
Voilà, ton héritage, Benjamin Biolay. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous voulez dire un mot
parce que vous avez... Oui, tout n'est pas héritage. Il y a aussi une partie de nous-mêmes
qui est unique,
on se construit. Alors, on hérite d'une génétique, on hérite d'un certain nombre de choses. Mmh. Mais il y a aussi nos propres expériences qui nous construisent. Ça, et puis, par contre, ce qui est intéressant dans son refrain, c'est de dire « ce n'est pas ta faute si tu es comme ça ».
Oui, oui.
Bah oui, parce que ce n'est pas une faute, il n'y a pas à se sentir coupable de ce qu'on est.
Mmh.
Donc, voilà,
on peut... Oui, c'est ça. À une autre, il y a, je pense aussi, parce qu'on parle de l'héritage, les enfants, enfin, Khalil Gibran disait vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de la vie. Alors là, c'est à l'opposé de.
Voilà, ben là, c'est le contraire. Ça serait les enfants sont qu'un héritage, en quelque sorte.
Oui.
Ben non, les enfants ont leur propre vie. Voilà, que ce soit, ils n'ont pas à correspondre aux désirs des parents.
Il faut les laisser libres parce qu'ils sont uniques.
Mais ils ont aussi leur propre vie et ils font leur chemin. C'est pas pire, parce qu'il dit c'est pire à, tu verras, c'est pire à mon âge. Moi, je pense que finalement, grandir, c'est aussi se libérer quelque part de ses héritages.
Pour devenir soi-même,
pour intégrer ce qu'il y a de bon, parce qu'on hérite des bonnes choses aussi. Mais en tout cas,
faire le tri.
Et faire sien ce qu'on veut en garder.
C'est ça. Donc voilà, commenter la chanson. Alors on parle ce soir justement de quand l'idéal devient souffrance. Vous nous avez donné la définition du Larousse.
Du Larousse.
Et puis, c'est
une vision.
C'est une vision. Mais alors, est-ce qu'au niveau psychologique, comment on voit, est-ce qu'on voit la notion d'idéal de la même façon ?
Alors, pas de la même façon, évidemment.
Oui. Comment voit-on la notion d'idéal ?
La notion d'idéal, elle apparaît avec chez Freud, elle apparaît avec la notion de narcissisme. C'est-à-dire, quand il aborde le narcissisme, qu'il va développer en même temps la notion d'idéal.
Alors, vous pouvez peut-être quand même donner une notion de narcissisme, parce que c'est plutôt péjoratif quand on dit narcissique. Je sais que c'est au point de vue psychologique, c'est pour ça, mais dans le langage courant. Alors, il faudrait peut-être le préciser au point de vue psychologique.
Le narcissisme, c'est simplement l'amour de soi, qui peut être ajusté, bon. Dans ce cas-là,
Mais c'est quand c'est pas ajusté que.
Quand c'est pas ajusté, il peut manquer. Donc une personne peut avoir des failles narcissiques et du coup manquer en quelque sorte de narcissisme, ou il peut être en excès, par exemple, comme dans l'orgueil. Donc le narcissisme, c'est quelque chose de neutre, qui concerne son rapport à soi-même. Dans la relation, on est en rapport avec l'autre. Dans le narcissisme, on est en rapport avec soi-même.
Alors, dans un juste rapport ou pas ?
Exactement.
Ou en faille ou en excès.
Ou équilibré.
Ou équilibré, équilibré, donc ça c'est le juste. Mais quand on l'expression dans le langage
Le langage courant, souvent c'est péjoratif quand on dit quelqu'un est narcissique. Souvent c'est il pense qu'à lui ou il est orgueilleux ou il se vante ou
repli sur soi, un ego.
Peut être du repli sur soi, mais on dit rarement de quelqu'un qui se replie sur lui-même qu'il est narcissique dans le langage courant. C'est plutôt au contraire les gens qui se mettent beaucoup en avant, qui vont dire ce qu'ils font de bien. Mais c'est pas forcément c'est du narcissisme parce que c'est toujours le rapport à soi, mais si c'est juste, c'est pas négatif.
Non,
quelqu'un qui est fier de ce qu'il a fait, d'une réalisation qu'il a faite, c'est du bon narcissisme.
Oui, c'est un juste.
C'est normal.
Rapport à soi.
Et on a droit d'être fier de ce qu'on a fait de bien ou de bon. Là où ça pose problème, c'est quand on exagère ou alors quand on ne reconnaît pas ce qu'on fait de bien ou de bon.
Oui.
Et du coup, on est soit dans l'excès, soit dans le manque et pas dans l'équilibre.
Mmh. Est-ce que ça a un rapport avec ce que, justement, avec ce dit de la notion d'idéal ?
Alors, ça a un rapport avec la notion d'idéal parce que l'idéal renvoie au versant narcissique.
Mmh. Alors.
Alors, voilà ce que dit, par exemple, le Dictionnaire international de psychanalyse. Donc, l'idéal du moi, on verra, il y a trois aspects. Il y a l'idéal du moi, le moi idéal, et puis l'idéalisation.
Voilà.
Alors, l'idéal du moi, donc, se forme lorsque l'enfant, du fait de l'environnement, est obligé de renoncer à son narcissisme tout-puissant. C'est-à-dire que l'enfant, il se croit et se perçoit tout-puissant. Ça,
oui.
On est plein dans le narcissisme infantile.
Oui.
Et puis, il y a l'environnement, les parents qui le reprennent, qui l'éduquent. Voilà,
oui.
Et du coup, il est obligé à renoncer à sa toute-puissance. Et ce renoncement est rendu possible par la formation d'un substitut qui est l'idéal du moi, qui va laisser ouverte la possibilité dans un temps futur de rejoindre le moi, donc comment l'enfant se perçoit,
oui.
Et l'idéal. Voilà, en gros, l'idéal du moi se construit au moment où l'enfant est obligé de renoncer à sa toute-puissance et à son narcissisme omnipotent,
oui. Mmh.
Voilà, il se dit, ok, je renonce, mais à la place, je vais le mettre comme un idéal à atteindre.
Mmh. D'accord.
Voilà, et c'est comme ça que se construit l'idéal du moi qui va également passer. Donc, ce processus, il se fait aussi par l'identification aux parents.
Mmh.
C'est-à-dire que l'enfant va s'identifier aux parents de façon, ce qui va lui permettre d'intégrer aussi les aspects positifs qu'il perçoit chez les parents, de les intégrer en lui.
Mmh. Donc,
Alors...
idéal du moi, sur moi, tout ça, parce que ça a un rapport.
Alors, au début, Freud ne séparait pas les deux. Pour lui, dans l'idéal du moi, il y avait aussi le surmoi. Voilà, et c'est petit à petit que ça s'est séparé. Mais au départ, c'était confondu.
Mmh.
Quand les deux sont confondus, ça veut dire que ça comprend finalement toutes les restrictions auxquelles le moi doit se plier, donc l'enfant ou la personne, puisque ça continue à l'âge adulte, de manière à devenir conforme à cette image détachée de son propre narcissisme et projetée devant lui.
Mais ce que vous disiez pour l'enfant.
Voilà.
Qui doit renoncer à sa toute-puissance.
Voilà, et qui va projeter cette image devant lui comme un but à atteindre. Mais en même temps, il n'est pas que critique. Il peut produire lorsque quelque chose dans le moi coïncide avec l'idéal du moi, c'est-à-dire quand on a l'impression de faire quelque chose qui correspond
à un idéal. Oui.
Une sensation de triomphe où l'estime de soi est retrouvée.
Mmh.
Donc, on voit que l'estime de soi est très en lien avec l'idéal et comment on perçoit si on est proche ou loin de cet idéal.
Mmh.
Donc, chaque fois qu'on se sent proche de notre idéal, eh bien, notre estime de soi va monter.
Oui.
Et chaque fois qu'on va s'en éloigner, elle va baisser.
Mmh. Alors, il peut y avoir différents
aspects. Oui. Alors, l'idéal du moi peut être court-circuité lorsqu'il est remplacé par l'idéalisation d'un objet. on pourrait rajouter objet, c'est une activité, c'est une personne, c'est un statut. Ou par exemple, dans les choix amoureux, ben, ça arrive souvent qu'on idéalise l'autre.
Surtout au début, peut-être.
Voilà, et du coup, on remplace notre idéal.
Mmh. On le projette finalement.
On le projette dans l'autre.
Oui.
Voilà.
C'est une projection à ce moment-là.
Voilà, et c'est l'autre qui vient remplacer
l'idéal
du moi. Et c'est pour ça que, alors c'est pour ça et en même temps c'est un processus qui est concomitant. On sait pas trop qui est l'œuf et qui est la poule. Mais en gros, c'est ce qui fait que la personne amoureuse va complètement idéaliser. Parce que,
elle projette dans l'autre quelque chose de son idéal, donc
idéal.
C'est comme un miroir finalement.
Voilà. Alors, c'est projeter ou remplacer son idéal, c'est-à-dire qu'elle met l'autre à la place de son idéal.
Ah oui. Ouais. Donc l'autre peut ne pas être comme cela, mais elle le voit comme ça.
Ah ben, de toute façon, c'est pour ça que cette idéalisation, elle dure 2-3 ans, et puis après, au bout d'un moment, la personne découvre la personne réelle.
Oui, on vient les pieds sur terre, quoi.
Voilà.
Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ça?
Alors, l'idéalisation
dans le choix amoureux. Est-ce que c'est bon?
Dans le choix amoureux, il y a un aspect positif, c'est que ça permet l'accroche.
Bah oui.
Et donc,
autrement, il y aurait peut-être pas d'accroche.
Autrement, il y aurait pas d'accroche ou peut-être une accroche moins forte. Donc, l'aspect positif, c'est...
Oui, c'est l'accroche.
C'est l'accroche et ça va nouer la relation d'une façon forte. L'aspect négatif, c'est qu'il y a quand même, dans l'idéalisation, souvent une part d'illusion. Et du coup, après...
Il y a des illusions, après.
Après, il y a le risque de déception ou alors si ça se fait progressivement, c'est pas très gênant. Mmh. Voilà, la personne va au fur et à mesure découvrir l'autre, réajuster sa vision de l'autre, et à ce moment-là,
la relation
va se construire.
Oui.
Si c'est brutal, ça peut être gênant parce que ça va être une déception forte ou ça peut mener à la rupture ou voilà.
Donc voilà, tout dépend comment c'est vécu, la suite est vécue quoi.
Voilà. Alors une autre instance qui s'appelle le moi idéal. Donc là on avait vu l'idéal du moi. L'idéalisation et maintenant le moi idéal.
Alors c'est quoi le moi idéal ?
Qui est en quelque sorte un aménagement du narcissisme infantile et de l'omnipotence qui l'accompagne.
Oui.
Et à l'inverse de l'idéal du moi, le moi idéal va reproduire cette proximité avec l'idéal.
Oui.
Par le fantasme et la rêverie. C'est-à-dire que dans l'idéal du moi, la personne projette à l'extérieur, en quelque sorte, son idéal et elle va dire « faut que j'atteigne ça ».
Ça, oui.
C'est ce que je veux être ou c'est ce que je veux devenir. Dans le moi idéal, elle va fantasmer qu'elle l'est.
Ah oui.
Et donc, ce qui donne,
elle va se prendre pour.
Voilà, ce qui va donner, c'est sentiment de toute puissance.
Finalement, c'est quand l'enfant n'a pas bien vécu le passage à l'idéal du moi.
Voilà. Alors, ce sont des instances qui existent en nous, de toute façon.
Oui.
C'est comment elles ont été intégrées.
C'est ça. Oui.
Et donc le moi idéal, il apparaît comme une manière un peu de court-circuiter le travail et l'attention qu'exige l'idéal du moi. qui, lui, pose des buts à atteindre, alors que le moi idéal
les
croit déjà atteints. Voilà. En gros, les nuances.
Oui, d'accord. Bon, alors on peut résumer peut-être dans le langage courant pour intégrer aussi tout ça.
Voilà. Alors l'idéal du moi, donc, ça serait une image narcissique qu'on projette devant soi comme un but à atteindre. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il comprend un certain nombre de valeurs et de qualités à obtenir.
Donc c'est bon, ça peut stimuler.
Ça stimule, voilà.
Pour grandir, oui.
Ça correspond à ce que la personne aimerait être. Le moi idéal, c'est une image narcissique de toute puissance ou d'omnipotence que la personne fantasme avoir atteint, donc qui est source d'orgueil.
Oui.
Quand on parle d'orgueil, on est plutôt dans le moi idéal. Et l'idéalisation consiste à mettre à la place de l'idéal une personne, un statut ou un objet extérieur qui aura été idéalisé.
Alors là, c'est les deux derniers, le moi idéal et l'idéalisation, c'est...
Ils vont poser des problèmes en général.
Oui.
Le moi idéal, on pourrait dire que c'est l'idéal du moi, c'est un processus qui va être dynamique pour chercher à atteindre cet état de perfection. Alors, mais qui parfois, quand il est associé à une conscience morale trop stricte, peut se retourner contre la personne sous forme d'autocritique. Voilà, et les gens qui s'autocritiquent, c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas correspondre à leur idéal. Le moi idéal, lui, mène à l'illusion de la toute-puissance. Et la confrontation à la réalité risque d'être douloureuse, parce que ça ne peut pas tenir éternellement. À un moment ou un autre, la personne est confrontée à la réalité. Et l'idéalisation, elle mène souvent à l'illusion dans les relations, que ce soit amoureuse, au travail ou autre.
Oui, parce qu'on idéalise.
Voilà. Et du coup, on n'est pas dans la réalité non plus.
Donc voilà, c'est quand même... on a posé un peu les trois points importants.
Les trois points importants. Alors... Ce qui est à prendre en compte et qui est peut-être important, c'est que tout ça, c'est inconscient.
Ah oui.
Et finalement, même quand on dit notre idéal, mon idéal, c'est ça, consciemment, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a toute la partie inconsciente qui va nous influencer à notre insu.
Alors, pourtant, on disait au début qu'on a tous besoin d'un idéal. Hein.
Oui, tout ce qu'on vient de dire peut paraître un peu critique, encore que la vision psychologique parle du développement de la personne, sans avoir un regard critique sur l'idéal, mais plus sur comment ça fonctionne. Et pourtant, on a besoin d'idéaux. Et toute façon, on ne peut pas y échapper. Ça fait partie de notre constitution psychique.
Alors, on va y revenir, Pascal Parinet. 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Donc, on parle ce soir de l'idéal, mais aussi quand l'idéal devient souffrance. Et donc, nous vous invitons à nous rejoindre. On écoute tout de suite Fabienne Thibault, Chaleur humaine.
Radio Notre-Dame.
Sur la terre de feu, je sais bien qu'il fait froid. Moi, mon pays, ça. respirer la vie un instant avec toi. C'est juste ça qui me fait du bien. Chaleur de mer, je dis que les gens ont besoin des gens, bien plus que de soleil et d'argent. Qu'est-ce qu'on
Fabienne Thibault, chaleur humaine. Alors ce soir, nous parlons avec Pascal Parinet et vous aussi, à travers vos questions, vos témoignages, de l'idéal, mais quand l'idéal devient souffrance. Hein, c'est thème que, ce que nous avons donné hein, comme titre. On disait que, donc, on a vu comment ça peut être plus ou moins ajusté. Mais on a tous besoin d'un idéal, de l'idéal, hein, c'est nécessaire, c'est
voilà,
quelque chose qui est partie.
Et en plus, ça fait partie de nous d'en
de
avoir.
Nous. Bah bien ah. sûr, oui, heureusement, parce qu'autrement, peut-être, oui, même ceux chez qui l'idéal n'est pas très ajusté ont quand même un idéal, peut-être.
Oui, ah oui, hein? Oui, tout le monde,
tout a, monde en a un.
Tout le monde en a un. Alors après, il peut se mettre sur différents aspects.
Oui, oui.
Qui ne plaisent pas forcément aux uns aux autres.
Oui, oui, oui.
Mais
oui.
Tout le monde a
un
idéal.
Alors, quand c'est positif... Hein.
Quand c'est positif, ben, d'abord, c'est le lieu des valeurs qui vont être constitutives de la personnalité, c'est-à-dire de celles qui sont fondamentales pour l'individu.
Oui, oui.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est toutes les valeurs qui nous paraissent non seulement fondamentales, mais qui sont intrinsèques en quelque sorte à notre personne. L'autre aspect, c'est que c'est un panneau indicateur qui nous donne une direction dans la vie, puisqu'il correspond à ce qu'on aimerait être.
Oui.
Donc c'est aussi c'est bien d'avoir une direction et et de savoir à peu près où vers quoi on veut aller dans la vie. Et finalement, l'idéal, il agit un peu comme un aimant qui attire la personne sur un chemin de vie. On a vu aussi qu'il met en route une dynamique qui normalement va vers la croissance et le dépassement de soi.
Oui.
Donc, c'est ce qui nous permet de progresser aussi en tant que personne dans la vie, dans les relations aux autres. Donc,
dans la dimension de don, de soi.
Voilà, donc on voit que c'est quelque chose de positif et de constructif aussi.
Et donc important dans la vie d'avoir des...
D'avoir des idéaux, tout en sachant que ceux-ci ne sont pas forcément réalisables. Et je crois que c'est... Voilà, autant c'est important d'avoir des idéaux, autant c'est important de savoir qu'ils ne sont pas forcément réalisables.
En tant que tel, parce voilà. que ça peut prendre une autre forme.
Ou... Alors, ça peut prendre une autre forme. Ça
donne une direction, en tout cas.
Ça donne une direction. On peut en atteindre un certain pourcentage. Mais comme l'idéal est quelque chose quand même d'un peu parfait...
Ça va toujours au-delà.
Ça veut dire qu'il faut accepter qu'on n'atteigne pas cette vision idéale.
Mais ça nous tire toujours vers
le haut.
Oui.
Ça nous tire vers le haut.
D'accord.
Voilà. À la fois, ça nous tire vers le haut et ça balise aussi notre chemin. Et donc, ça nous aide à progresser en humanité.
Mais pour que ça puisse réaliser cela...
Alors, ce qui est important, c'est d'être de plus en plus conscient de son idéal, alors psychologique, pour le coup, de percevoir aussi comment il se manifeste dans notre vie, dans quel domaine il se manifeste, pour avoir un rapport fluide et sain avec...
Pas rester figé,
voilà,
accroché.
C'est-à-dire que faut pas être complètement figé, accroché à son idéal, mais il faut avoir une certaine souplesse. Faut pas que ça qui devienne tyrannique.
Oui.
Quand il s'associe au surmoi, et donc ça veut dire avoir un rapport à la fois fluide et sain avec.
Alors, on va arriver, puisqu'on a parlé de quand l'idéal devient souffrance. Hein. Mais je voudrais... Il y a Pierre qui pose une question. Voilà, je ne sais pas comment vous allez réagir à cette question. Pierre demande, quel est l'idéal chrétien de la souffrance et de la mort?
Alors...
C'est bon.
L'idéal chrétien...
De la souffrance et de la mort.
Ce n'est pas la souffrance et la mort.
Non, ce n'est pas un idéal.
Non, c'est la sainteté.
C'est la sainteté. Il faut remettre les choses à leur place. Voilà. L'idéal chrétien, c'est la sainteté.
L'idéal chrétien, c'est la sainteté. Après, il arrive que des personnes, pour leur foi, en viennent à mourir, à être martyrs.
Pour ne pas renoncer à ce qu'elles sont.
Pour ne pas renoncer à leur idéal.
À leur idéal, oui. C'est ça,
est la foi.
La foi.
C'est pas pareil de devenir martyr pour ne pas renoncer à sa foi que quelqu'un qui chercherait le martyr, c'est-à-dire là on serait dans l'idéalisation, tiens.
Exemple
d'idéalisation où la personne chercherait la mort comme idéal en croyant que c'est ce qu'ils veulent lui donner. La sainteté. Et on remplace finalement l'idéal de sainteté par quelque chose d'autre qui est la mort.
Oui, c'est pas...
C'est de l'idéalisation et ce qui est une illusion.
Une illusion.
Par contre, de ne pas renoncer à son idéal chrétien ou peu importe d'ailleurs... ça peut être laïque pour les soldats, par exemple,
la patrie.
Et, et en renonçant pas à son idéal, d'en mourir, pas par choix, par conséquence de l'attachement à son idéal, ça c'est autre chose.
Alors voilà, donc je pense que vous avez clarifié ce que Pierre, ce qui était dans l'idée de la question de Pierre.
Oui.
On a posé donc comme titre quand l'idéal devient souffrance. Hein. Alors il y a donc des risques, on peut dire.
Des risques de présenter des aspects négatifs, non pas par l'idéal lui-même, mais dans le rapport qui s'établit dans la personne avec son idéal.
On va donc voir peut-être les risques, les différents risques qui sont en lien avec l'idéal.
Voilà. Et pour simplifier, on va dire l'idéal du moi avec la perfection et puis le moi idéal avec la toute-puissance.
Voilà, comme ça pour... Bon.
Et donc, quand on regarde l'idéal de perfection...
Oui, donc l'idéal du moi, l'idéal de perfection, oui.
Le risque principal qu'on peut voir, ça va être le perfectionnisme. Qui va se décliner d'ailleurs de différentes façons, mais qui va surtout imposer à la personne une contrainte de perfection, donc d'être parfaite. Et ça, on peut en voir les effets ordinaires dans la vie. Mais ce qui est important, c'est que si la personne n'arrive pas à gérer cette contrainte, d'abord, elle va ressentir de l'angoisse.
Oui.
L'angoisse ou alors du stress, mais un peu plus que du stress, vraiment une angoisse importante. À l'extrême, ça peut aller à une sensation de vide, qui va encore amplifier son angoisse. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un rapport trop strict à son idéal de perfection, chaque fois qu'il sera amené à faire quelque chose, il va angoisser, ou il va se sentir vide, perdre tous ses moyens, être complètement perdu.
Alors, quel est le... On va voir, parce que là, on va peut-être pas... partir sur autre chose. Je rappelle le téléphone à nos auditeurs, 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre à partir de le thème de ce soir, donc sur l'idéal, mais quand l'idéal devient souffrance. Et on a donc bien vu la différence entre cet idéal, l'idéal du moi, qui est une orientation juste pour
une direction.
Le moi idéal qui est là une illusion,
toute puissance,
oui. Et puis l'idéalisation qui est fantasme.
Une déviation, on déplace, on prend quelque chose d'autre pour l'idéal.
Voilà, 01 56 2 fois 44 00 pour nous rejoindre. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà ce gestalt thérapeute, formateur en relations humaines, et donc, qui vous propose certaines... Est-ce que vous avez là justement des stages ou je ne sais pas, qui sont en lien avec le thème de cette soirée sur l'idéal?
Alors, on a un stage les 23 et 24 mai sur sortir de la dépendance affective. Et très souvent, dans la dépendance affective, il y a de l'idéalisation.
Mm-hmm.
Voilà.
Oui, donc c'est le 23-24 mai, oui.
Un autre stage, les 4 et 5 juillet, sur la confiance en soi. Et là, la confiance en soi et l'estime de soi sont directement liés au rapport à l'idéal.
Mmh. Oui, confiance en soi et estime de soi, oui. C'est donc, voilà, les deux qui
les
sont...
Les deux qui sont en lien avec l'idéal.
Donc, on peut rappeler les coordonnées pour personnes intéressées.
Voilà, alors le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60.
Oui, 06 60 15 79 60.
Ou alors, contact...
Oui.
@...
Oui.
IFPsy.
Oui.
.com.
Voilà. contact@ifpsy.com. Voilà, tous les renseignements sont au standard dans la journée si vous n'avez pas pu noter. Donc voilà pour les stages en lien avec ce que
avec
nous...
les deux sortes d'idéal.
Oui. Alors donc on parlait des risques, hein. Alors on voyait que le perfectionnisme, par exemple, hein, dans l'idéal de
perfection, enfin par rapport à l'idéal du moi,
oui.
Le risque qui se décline juste avec, c'est aussi de ne pas se sentir à la hauteur.
Oui.
Et c'est le risque qui est le plus souvent vécu, d'ailleurs, qu'on rencontre le plus couramment chez des personnes, de ne pas se sentir à la hauteur.
D'une tâche enfin,
d'une tâche. Alors, quand
d'une situation,
c'est,
oui.
Ça peut être d'une situation professionnelle, ça peut être d'un rapport à l'autre, dans les situations amoureuses, de ne pas se croire à la hauteur de l'autre. Mmh. Donc, dans beaucoup, beaucoup de situations, sans que ça soit justifié, parce que ça peut arriver dans son travail qu'on atteigne un limite de compétence, par exemple.
Mais
là, je parle vraiment de personnes qui fréquemment ne se sentent pas à la hauteur, cause de leur rapport à leur idéal.
À l'idéal, d'accord.
Alors, toute la question, c'est justement de savoir à la hauteur de quoi.
Oui. À la hauteur de quoi, oui.
Alors, bien sûr, c'est de son idéal.
Oui.
Mais le problème, c'est comme il est en grande partie inconscient, la personne peut pas savoir la hauteur de quoi. Parce que elle a une exigence d'être à la hauteur de quelque chose qui est inconscient chez elle.
Mmh.
Du coup, elle n'a pas de niveau où placer la barre, et puis comme c'est un idéal, quel que soit le niveau où elle place la barre, elle ne sera pas à la hauteur.
Alors, qu'est-ce que ça va engendrer, tout ça?
Alors, la première chose, c'est que ça va engendrer de la frustration. La personne n'aura jamais la pression d'en faire assez, d'avoir bien fait.
Mmh.
Elle pourra être rarement satisfaite, que ce soit d'elle-même ou de ce qu'elle fait. Et puis, parfois, la frustration va se transformer en agressivité, qui va s'exprimer sous forme de mécontentement, de reproches, de critiques, de jugements, mais d'abord envers soi-même. Et puis après, ça peut déborder aussi sur les autres, mais très souvent, ça va être d'abord envers soi-même. Un autre aspect, ça peut être que les autres ne seront pas non plus à la hauteur de cet idéal. C'est-à-dire que la personne est exigeante non seulement vis-à-vis d'elle-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Et ça, dans les relations, ça peut compliquer. Qu'un célibataire qui veut se marier, s'il met la barre trop haute et qu'il attend quelqu'un de parfait...
Un idéal.
Voilà, un idéal, il ne va pas trouver. Et du coup, ça va engendrer les mêmes processus critiques, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres.
Alors, face à la contrainte de perfection et au risque d'angoisse, ce qu'on disait, comment la personne va-t-elle réagir ?
Alors, très souvent, elle va mettre en place des mécanismes d'évitement, comme la procrastination,
qui est
de remettre au lendemain,
ah oui,
ou à plus tard,
oui.
ou encore la paralysie.
Oui.
Autrement dit, elle n'osera plus agir de peur de ne pas se sentir à la hauteur, et elle va préférer remettre au lendemain ou ne rien faire, plutôt que de se trouver face à un échec non pas réel, mais par rapport à son idéal.
Et
souvent, la personne ne se rend pas consciente que c'est son idéal qui la bloque.
Ah oui.
En tout cas, que c'est la peur de ne pas correspondre à son idéal qui la bloque.
Oui. Parce que c'est inconscient, il y a beaucoup de choses, mécanisme inconscient. Oui.
La seule chose que les personnes vont percevoir, c'est leur blocage. Et puis, il y en a d'autres, alors qui vont verser sur le versant autocritique, qui vont dire « je suis feignant, je suis incapable ». Donc, alimenter une autocritique d'eux-mêmes, ce qui va encore diminuer leur image et leur estime, et du coup, rendre encore plus difficile d'agir. Voilà, et puis il y en a qui reconnaîtront, et peut-être plus tard, quand ils auront pris un peu plus conscience de ce qui se passe dans ce blocage, qu'ils ont peur de ne pas y arriver.
De pas être à la hauteur.
De pas être à la hauteur.
Alors, autre réaction possible
Alors, une autre réaction, ça va être de se sentir mal à l'aise. Parce que des personnes qui ont un rapport difficile à leur idéal vont se sentir mal à l'aise dans les relations. Voilà, alors par exemple les personnes timides. La timidité, c'est vraiment par rapport à un idéal, comment on doit être en société, ou comment on doit être face à quelqu'un d'autre. Et du coup, comme elles ont un idéal qui, bien sûr, n'est pas atteignable, eh bien, elles vont sentir une gêne, et on appelle ça la timidité, ou elles vont rougir, ou voilà, ou elles vont rester en retrait, parce que, au cours d'une soirée, par exemple, ou en groupe, elles vont rester en retrait parce que elles auront peur de pas être assez bien, en quelque sorte, ou assez intéressant, ou assez cultivé. Enfin, tout dépend de leur idéal. Si c'est d'être intéressant, intelligent, cultivé, ou sportif, ou peu importe.
Oui, c'est selon le domaine.
Voilà.
Donc, oui.
Ce qui fait que, finalement, l'idéal va aussi participer à la peur des relations sociales, de ne pas être assez avec les autres, peu importe ce que ça concerne. Ce qui va pas arranger les relations, parce que ces personnes vont soit rester silencieuses, soit rougir, soit être en retrait. souvent elles se le reprocheront après. Elles auront l'impression de ne pas arriver à s'intégrer. Parfois, elles vont se sentir rejetées, mais justement parce qu'elles n'arrivent pas à s'intégrer ou pas aimer. Mais en fait, c'est elles-mêmes qui ne s'aiment pas ou qui se rejettent en quelque sorte en se mettant à l'écart des autres.
Oui, d'accord. Alors, il y a aussi la comparaison qui joue là aussi dans cette attitude.
Oui, alors on a dit que la personne se comparait finalement sans arrêt à son idéal, mais on va retrouver ça aussi vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que la personne va se comparer aux autres en estimant que les autres s'approchent plus qu'elle de son idéal. Et donc, elle va être sans arrêt, parce qu'elle pourrait se comparer aux personnes, je ne sais pas, moins compétentes qu'elle, et se dire, ben, ça va, j'ai assez de compétences pour faire telle chose.
Oui, mais non, elles vont pas.
Mais non, elles vont se comparer à des personnes qu'elles situent sur un plan supérieur et plus proche de leur idéal. Et du coup, ben, se dévaloriser et à nouveau ne pas se sentir à la hauteur. Voilà, et comme on peut toujours trouver quelqu'un de mieux que soi, c'est voilà, la personne sera sans arrêt à dire ah oui, mais moi je fais moins bien qu'un tel, ou je suis pas aussi fort qu'un tel, je suis pas aussi intelligent qu'un tel, je suis pas aussi.
Donc se dévaloriser, mais il n'y a pas à se comparer.
Non.
Chacun est soi, unique.
Voilà. Et puis, ce qu'à l'autre ne retire rien, souvent, il y a des personnes qui croient que parce que quelqu'un a plus, ça leur retire à eux. Mais ça leur retirera rien du tout.
Non.
Si
parce qu'ils ont autre chose.
Voilà. Parce qu'eux, ils ont autre chose. Et puis... peu importe, j'ai envie de dire ce qu'ils ont. Si on a 100 francs, enfin 100 euros, et quelqu'un d'autre en a 200, c'est pas parce que l'autre a 200 que moi j'ai plus mes 100.
Mais oui.
Et ce qui est important, c'est que j'ai les 100.
Mais oui.
Finalement, peu importe ce qu'a l'autre. Eh bien, pour les qualités, pour les capacités, c'est pareil. C'est
mais
pas
oui.
parce que quelqu'un est plus doué dans un domaine que ça me retire quelque chose à moi. Voilà, peut-être moi je serais plus doué dans un autre domaine.
Bien sûr, voilà, chacun. C'est de trouver ce qui...
Comment exprimer ce qu'on est.
Oui.
Voilà. Alors, avec la comparaison, ben, juste derrière, il y a la dévalorisation qui arrive. Parce que à force de ne pas se sentir à la hauteur, la personne va commencer à s'autocritiquer, à se dévaloriser.
Est-ce qu'elle en a conscience?
Très souvent, non. Alors ça, c'est assez remarquable. C'est que très souvent, les gens n'ont pas conscience de se dévaloriser et de s'autocritiquer. Souvent, y a des personnes qui disent, vous allez dire que je suis bête. Oh tiens, j'ai cette idée-là, mais c'est idiot. Mais elles disent ça comme si elles parlaient de la pluie et du beau temps.
Oui. Alors c'est d'elle.
Alors que c'est d'elle. Et sans avoir conscience qu'elles sont en train de se traiter de bête, d'idiote, de nul. Le mot nul revient souvent aussi. Mauvaise ou mauvais. Et les personnes le disent sans même s'en rendre compte.
Mais alors comment on peut arrêter ce processus-là si on...
Ben, d'abord, ça passe par la prise de conscience du discours sur soi. C'est-à-dire, faut déjà prendre conscience que à chaque fois qu'on dit oh ben tiens, j'ai pensé ça, ben c'est bête, qu'on est en train de se critiquer.
Ah oui.
Et puis, en même temps qu'on prend conscience de ce discours, de réajuster, ben non, c'est pas bête, on a le droit de penser ce qu'on veut, il n'y a rien de bête là-dedans. Et donc, c'est...
Donc ça, c'est lié, en prendre conscience. Mais si la personne n'en prend pas conscience, alors...
Ben, ça va générer une mauvaise image de soi et une perte de l'estime de soi, parce que à force de se répéter dans le discours sans arrêt, c'est bête, c'est idiot, c'est nul, c'est quand c'est pas je suis bête, je suis idiote ou je suis nul, eh bien forcément l'estime de soi elle va baisser, l'image de soi sera mauvaise, la confiance en soi va être perdue, et puis à l'extrême ça peut déboucher sur une dépression quand ça tourne vraiment en boucle.
Oui. Alors qu'en est-il alors de l'idéal de toute puissance, hein, puisqu'on a parlé là, il y avait là, c'est le perfectionnisme.
Voilà.
Et l'idéal de toute puissance.
Alors, lui, qui est vraiment un vestige du narcissisme, c'est quelque chose qui se vit dans l'illusion, parce que personne n'est tout puissant.
Mais oui.
Donc, c'est la personne vit. Se vit dans l'illusion d'elle-même. Elle va se fantasmer puissante, intelligente. Alors, mais c'est une illusion. Sinon, ça peut être elle. Hein. On peut se dire, je suis intelligent ou je suis fort. Un sportif, par exemple, il peut se dire, je suis fort, j'ai réussi tel record ou je sais pas trop quoi. C'est autre chose.
Oui, c'est autre chose. C'est une reconnaissance. Oui.
C'est une reconnaissance.
Mais par exemple, les dictateurs peuvent avoir.
Les dictateurs sont en plein là-dedans. Ils s'illusionnent eux-mêmes, et puis ils illusionnent aussi, en tout cas, une partie du peuple,
une partie,
qui va les idéaliser.
Ben voilà, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Oui, donc là, il y a un retour.
Voilà, mais. Par rapport à cet idéal de toute puissance, le premier risque, c'est de s'illusionner soi-même. L'autre aspect, c'est que la personne est dans un rôle fantasmé et non pas elle-même.
Ben oui.
C'est-à-dire qu'elle joue un rôle sans s'en rendre compte. Avec une haute estime d'elle-même, hein, bien sûr, dans ce rôle, et puis elle va y croire, mais ce n'est pas elle-même.
Elle joue un personnage, quoi.
Elle est dans son personnage fantasmé, mais qui est son moi idéal, mais qui n'est pas...
L'idéal du moi. Enfin, c'est pas...
Qui n'est pas réel, réaliste, qui n'est pas ce qu'elle est, qui n'est pas son moi réel.
Oui, oui.
Et du coup, la personne n'est pas dans la réalité, mais bien dans l'illusion, qui est parfois entretenue par un statut social... ou parfois par les autres. Le dictateur s'en tient parce que il a aussi ce statut social de chef, et donc il est dans son illusion de toute puissance
oui.
Qu'il réalise en partie quand même.
Oui,
malheureusement.
Oui, malheureusement pour le.
Qui est entretenu aussi.
La souffrance des foules, oui.
Qui est aussi entretenu par les autres, c'est-à-dire par son idéal. Je suis en train de penser au film d'une chanteuse. Il y a eu un film il n'y a pas très longtemps sur une chanteuse à qui on faisait croire qu'elle chantait bien.
Ah oui.
J'ai plus le.
Le titre
en tête. Mais voilà, la personne chantait mal.
Avec Catherine Fraud, je crois, le livre.
Oui. Mais elle était dans une illusion de bien chanter. Et l'entourage participait à cette illusion en lui faisant croire qu'elle chantait bien, finalement. Ben voilà, voilà, ça c'est, elle, elle était dans son moi idéal, et puis l'entourage participait.
En idéalisant. Oui, c'est Marguerite, voilà, c'est ça,
oui, c'est Marguerite. Marguerite.
Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Merci Alexandre. Voilà, on va écouter tout de suite, c'est Angélique Kidjo, le titre c'est Ne céder jamais.
Radio Notre-Dame.
C'était Angélique Kidjo, Ne cédait jamais. Et ce soir, eh bien, nous parlons de l'idéal, hein, et l'idéal, mais quand il devient souffrance, et on voyait l'idéal de toute puissance, hein, on parlait des dictateurs, par exemple.
Voilà, oui. qui peuvent, où leur toute puissance s'exerce sur les autres, sur le peuple, et puis qui peut se retourner contre eux quand ça s'effondre.
Oui, c'est ça le problème, c'est qu'un jour ou l'autre.
Voilà.
C'est la confrontation.
Quand c'est un dictateur, finalement, c'est pas le problème qu'il soit confronté à un jour ou l'autre.
Non, c'est plutôt bien.
C'est plutôt bien dans ce cas-là.
Mais
avec le risque de suicide ou voilà, comme ça arrive.
Oui.
Voilà, et puis on citait aussi Marguerite qui était dans un moi idéal de chanteuse et que l'entourage n'a pas voulu la confronter à la réalité. Alors, peut-être par prudence,
voilà,
mais et qui entretenait ça.
Mm-hmm. Alors, donc ça peut occasionner, ça, on disait, des angoisses aussi pour la personne.
Alors, quand la personne est confrontée à la réalité, oui. C'est-à-dire à qu'elle se rend compte que finalement elle n'est pas dans la c'est une illusion. Mmh. À ce moment-là, elle va être angoissée, ressentir des angoisses de vide. Ça peut amener un effondrement, une dépression, et dans des cas extrêmes, aller jusqu'au suicide. Mmh. D'autres fois, ça va se rigidifier autour de l'idéal. Qu'il soit de perfection, soit de toute puissance. Mmh. Et dans ce cas-là, la personne n'accepte plus aucune nuance par rapport à son idéal, ne peut pas le remettre en cause ou pas même en parler. C'est pas intégré à la réalité, quoi. Ça devient quelque chose d'absolu, on peut plus en parler, on peut pas y toucher, quoi. Quelque part. Et puis, quand l'idéal de perfection et de toute puissance s'unissent, ça donne de l'intégrisme et du fanatisme.
Oui, parce que l'un et l'autre, ça peut s'unir.
Ça peut s'unir, oui.
L'idéal de perfection et de toute puissance.
Voilà, ou l'idéal du moi et le moi idéal quand ils s'unissent ensemble, ça donne le fanatisme. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'ouverture. La personne pense détenir la vérité absolue, devient tyrannique avec les autres, avec ceux qui pensent différemment. N'accepte plus la différence, et puis ça peut mener à tous les extrêmes, comme le terrorisme.
On voit combien l'histoire des hommes est menée par tout cela, hein.
Oui.
Au point de vue collectif, personnel, mais collectif, ça.
Au niveau collectif, parce que l'idéal peut se mettre sur quelque chose de commun.
Oui. Alors, et dans l'idéalisation,
On a vu que dans ce cas-là, la personne mettait quelque chose en lieu et place de l'idéal du moi.
Oui.
Alors, l'idéalisation, pratiquement toujours, ça mène à l'illusion. Parce qu'il y a un déni de la réalité. Alors, soit c'est le monde des bisounours, où tout est beau, tout est magnifique.
Donc, on idéalise, tout est magnifique, voilà. on est dans le... Oui. Ou alors
Soit c'est le monde de la passion. La passion amoureuse, mais ça peut être d'autres passions. Où tout est intense et imaginairement éternel.
Ah oui. Que ça va durer toujours. Amour toujours, la passion est...
c'est à la fois intense et éternel, mais éternel le temps que ça dure, parce qu'on sait que la passion ne dure pas.
Oui, mais la personne, quand elle la vit, elle est dedans et...
Oui,
que ça peut finir.
Non, parce qu'elle est dans
une intensité, une excitation.
Elle est surtout dans l'illusion due à l'idéalisation.
Oui, c'est ça.
Et du coup, ça donne une intensité.
Oui.
Parce que ça rejoint son idéal. Et en même temps, elle a l'impression que ça sera un moment une seconde qui dure une éternité.
On est en dehors du temps,
en dehors du temps.
De façon illusoire. Dans une façon ajustée.
Non. Alors, c'est des relations amoureuses, on sait tous un peu qu'est-ce que ça donne, les formes de passion, et que... toute l'intensité qui sera finalement fonction du niveau d'idéalisation.
Ah oui.
Plus c'est idéalisé, plus ça va être intense. C'est l'amour fou, comme on dit, mais aussi avec toutes les frustrations
que ça engendre,
les angoisses aussi. Oui. Évidemment, parce que dans l'amour, y a des imperfections.
L'autre est limité, voilà. On est limité soi-même, donc oui.
Et du coup, les différences font que c'est pas parfait, c'est pas idéal parce que
autrement c'est fusionnel et illusoire.
Et illusoire.
Oui. Mais alors, pour un temps.
Pour un temps. Mmh. Quand c'est un statut qui est idéalisé, le statut va être mis sur un piédestal qui va aussi occasionner un déni de la réalité humaine. Finalement, la personne oublie que le statut est tenu par un homme,
un être humain avec
ses limites. Voilà. Et ça, on le voit par rapport aux hommes politiques, avec les déceptions qu'il peut y avoir, parce qu'on avait idéalisé...
Oui, l'engouement, et puis après la déception.
Le statut d'homme politique.
Parce qu'il réalise pas le programme que...
Voilà.
Mais parce qu'on avait idéalisé, oui.
Voilà, ça, le statut sacerdotal ou religieux peut être aussi idéalisé par certaines personnes... Et quand ils se rendent compte que la personne ne correspond pas à son statut, il y a une déception. Ça veut dire d'accepter que de ne pas idéaliser un statut, mais d'accepter que c'est une personne qui remplit une fonction.
Alors, quand c'est un objet qui est idéalisé...
Finalement, il devient la seule chose à obtenir pour l'individu. C'est un peu le bien suprême. Alors, un objet, ça peut être une voiture, une grosse voiture, une belle maison. Ça peut être n'importe quoi. Il suffit de regarder le prix de certaines œuvres d'art. Qui dépasse l'imagination. Enfin, pour la majorité des gens, ils n'arrivent même pas à évaluer qu'est-ce que ça représente comme argent. Elles vont finir dans un coffre.
Pour protéger la
valeur. Et on voit que cette œuvre d'art, elle est idéalisée.
Ben oui, parce qu'on n'en bénéficie pas de...
Parce que la personne n'en bénéficie pas. Il n'y a rien qui justifie de tels prix. Après, on peut dire que c'est le marché, l'offre et la demande. Mais quand même, parce que c'est idéalisé.
Ben oui.
C'est pas le prix du travail humain, lui serait calculé sur un temps de travail. Ça n'a plus rien à voir. Et finalement, l'objet idéalisé, il fait un peu fonction de Saint Graal, ou en tout cas, il substitue à l'idéal.
En quoi, finalement, consiste le principal risque
d'abord, c'est la déception. Et puis, à l'extrême, la dépression quand il y a une perte. D'abord, parce que l'idéalisation, elle ne peut pas tenir dans la durée et face à la réalité. Même s'il y a une forme de déni ou d'illusion dans l'idéalisation, il arrive à un moment où la personne est confrontée ou rejointe en quelque sorte par les limites de la réalité. Et souvent, c'est un moment de grande déception. Et on le voit d'ailleurs dans les compulsions d'achat ou les personnes qui s'achètent des choses chères, par exemple, mais par idéal, elles sont contentes au moment où elles l'achètent, et puis après, elles disent, il y a une déception par rapport à l'achat. On est dans l'idéalisation d'un achat, que ce soit un vêtement, n'importe quoi. Et puis, parfois, ça peut basculer dans la haine. On le voit dans les relations passionnelles, mmh. où c'est l'amour et puis...
L'opposé, oui.
Voilà.
Ça montre que cette intensité, ces forces sont mal orientées. Enfin, s'orientent d'une façon ou d'une autre, et de façon extrême, quoi.
Alors, de façon extrême, idéale.
Mais
qui peut facilement basculer dans l'opposé. Mmh. Alors, quand c'est une relation amoureuse, ça va être l'amour fou. Mais qui peut vite basculer dans la haine. Mm. Ce qui fait que c'est souvent tumultueux, d'ailleurs.
L'aspect passionnel, oui.
Oui. Voilà. Mais aussi, souvent, il y a la dépression qui n'est pas loin, parce que la perte d'un idéal, c'est un deuil qui est difficile à faire.
Oui. Pourquoi ? Parce que, justement, on n'est pas dans la réalité.
D'abord, parce qu'il y a un investissement qui est très important sur l'idéal. Mmh. Et quand il est perdu, c'est tout ça.
Ça s'effondre.
Hein.
Ah oui.
Et la personne va risque en tout cas de s'effondrer. En tout cas, elle va y laisser des plumes parce qu'elle a investi
beaucoup de son énergie,
beaucoup de son amour, et c'est une perte très importante.
Mmh. Très douloureux et très... Ouais. C'est une part de soi.
Et on avait vu que c'était en lien avec un reliquat du narcissisme, et finalement, quand l'idéal est perdu... la perte, elle se situe au niveau d'un narcissique. C'est comme si elle perdait quelque chose d'elle-même. Et du coup, c'est extrêmement douloureux.
Mais parce que c'était pas ajusté, c'était une illusion.
Parce que c'était pas ajusté, que c'est dans l'illusion, que ce soit dans l'illusion de toute puissance ou dans l'idéalisation, l'illusion de quelque chose d'autre,
oui.
d'idéal.
Mm-hmm.
Ou quelque chose d'autre à aimer parce que idéal.
Mm-hmm. Hein. Et la perte se situe au niveau donc narcissique, là. C'est pour ça que c'est
voilà.
au niveau de l'estime de soi, de l'amour de soi, de...
Oui, de l'estime de soi, de son image aussi. Quelque part, en perdant cet idéal ou cette idéalisation, c'est l'image même de la personne qui va être touchée. C'est pour ça que très souvent... c'est lié à la honte. Le sentiment qui est relié à l'idéal, c'est la honte.
Ah oui.
Parce qu'on est sur un versant narcissisme. Autant le sentiment par rapport à la conscience morale, c'est la culpabilité, parce que on est au niveau moral. Mm. Par rapport à l'idéal, le sentiment le plus attaché, c'est la honte.
Merci Pascal Parinet. On va poursuivre dans quelques instants. Et écoutez, tout de suite, c'est Serge Reggiani qui chante « Ma liberté », c'est un rapport, puisqu'on n'est pas dans la liberté quand on est attaché à ce genre de... mal ajusté à l'idéal.
À son idéal.
À son idéal.
Radio Notre-Dame.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Jolière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Jolière.
Voilà, c'était Serge Reggiani, ma liberté. Donc, pour revenir donc à cet idéal, hein, et idéal avec les, un idéal qui peut devenir souffrance. Que se passe-t-il alors chaque fois qu'une personne s'approche de son idéal? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, bah, elle va ressentir de l'excitation. Un sentiment de triomphe, de bien-être, de plénitude, et son estime d'elle-même va monter.
Est-ce que c'est bon?
Pas toujours. Ça, quand ça en reste là, voilà.
Oui, juste
ça. On verra qu'il y a aussi des syndromes.
Chaque fois qu'elle s'en éloigne, alors.
Alors, quand elle s'en éloigne, il y a risque d'angoisser. Et son image d'elle-même va être abîmée, ternie, enfin, l'estime baisse.
Ben oui.
Alors, par rapport à s'approcher de son idéal, on voit qu'il y a des syndromes en lien avec l'idéal. On avait fait une émission là-dessus, sur le, qu'on a appelé syndrome religieux, pensée magique et foi.
Oui, oui.
Mais, par exemple, le syndrome de Florence, c'est donc pour ceux qui vont à Florence et oui. qui s'approchent de leur idéal de beauté, ils vont ressentir un sentiment d'excitation, mais aussi d'irréel. Le risque principal, c'est de se sentir hors de la réalité et du coup de flotter un peu. Et puis ce syndrome peut angoisser aussi. Voilà, il y a le syndrome indien aussi, qui a été décrit chez des personnes qui sont dans une recherche spirituelle orientale,
oui.
Et donc qui font des épisodes qui ressemblent un peu à des délires, en
oui.
quelque sorte, parce qu'ils s'approchent trop de leur idéal.
Mmh.
Et du coup, ils perdent toute notion de réalité.
Oui.
Puis il y a le syndrome japonais, alors là qui est plus lié à une déception, c'est-à-dire il y a certains japonais qui idéalisent la France et Paris,
oui.
Et quand ils arrivent, ils sont déçus, ils sont déçus parce que ça correspond pas à la réalité de ce qu'ils avaient idéalisé en fait, et du coup, bah ils tombent malades. Alors, pour tous ces syndromes, le seul traitement, c'est souvent le rapatriement. C'est-à-dire, on rapatrie les gens dans leur pays et puis ça passe. Mmh, mmh. Donc, on les éloigne en quelque sorte de ce qui
est leur déception.
Voilà, de leur idéal.
De leur idéal,
et
oui.
Ils retrouvent une santé normale.
Oui, oui.
Mais sinon, ça peut aller sur des problèmes graves comme des délires ou des choses.
Ah oui, à ce point-là, oui. Oui, on avait fait quelque chose là-dessus. Alors. Chaque fois qu'une personne est dans l'idéal, qu'en est-il au niveau spirituel alors ?
Alors, d'abord, on a vu l'idéal, c'est une image soit projetée devant soi, soit fantasmée de l'avoir atteint, soit intériorisée quand on met un objet ou quelqu'un d'autre à la place de l'idéal. Mais on pourra dire qu'à chaque fois qu'une personne est dans l'idéal d'une façon excessive,
oui.
Elle est dans l'idolâtrie.
Ben oui.
Parce que ce qu'elle cherche et admire inconsciemment, finalement, au niveau spirituel, c'est pas Dieu, mais une image idéale qui s'enracine dans son enfance. Donc, elle se fait une image de Dieu. Alors, très souvent, dans la réalité, c'est plutôt un mélange, un peu de vraie spiritualité, sur lequel va se mettre un peu d'idolâtrie. C'est-à-dire que la personne va projeter dans la religion une image idéale, ou une image idéalisée religieuse qui va prendre la place de son idéal. Ça ne retire pas la dimension spirituelle, hein.
Oui, oui, oui.
Simplement, ça la déforme.
C'est ça, ça déforme, oui.
Par exemple, l'image qu'elle va se faire de Dieu, des saints, des religieux, va être modifiée par son idéal. C'est un peu comme retoucher une image sur Photoshop, là, ou je sais plus quel logiciel de retouche de photos. De la même façon, on peut modifier sa vision spirituelle pour la faire correspondre à son idéal inconscient. Alors, dit autrement, ça veut dire que ce sont les images que chacun porte en soi qui vont venir interférer dans la foi d'une façon plus ou moins importante en fonction des personnes. Il y en a pour qui ça va être très important et puis que ça donnera lieu à une forme d'idolâtrie. Puis pour d'autres, ça va être minime et puis ça interviendra pas. Voilà. Mais les personnes peuvent projeter sur Dieu ou sur Marie des images internes de père idéal, de mère idéal, qui correspondent aux images de leur enfance. Ou de père qui punit.
Oui, c'est ça, hein? Oui, père fouettard.
Alors là, c'est pas l'image idéale, ça peut être le père fouettard, mais ça peut être soit...
Ça peut poser des problèmes par rapport à Dieu aussi, mais on s'en rend compte, là.
Soit ça peut être versant idéal, mais qui correspond au père idéal de l'enfance, soit le versant
opposé négatif
et le père fouettard de...
Aussi Marie par rapport à la mère aussi.
Marie par rapport à la mère qui est très souvent idéalisée. En tout cas, il y a beaucoup de projections sur Marie qui sont plus de l'ordre de l'idéalisation et psychologique que de la spiritualité.
C'est peut-être ça qui a fait que, par exemple, les protestants ont...
Alors, c'est possible qu'il
y a eu quelque chose de ça
possible.
Aussi, peut-être. Alors, comment faire hein, pour par rapport à tout cela hein, comment peut-on trouver ce juste équilibre
Alors, souvent, j'ai...
Christine me posait la question, comment on arrive, non pas au moi idéal, mais à l'idéal du moi.
Alors, la ce que je dis souvent, c'est que pour avoir la tête dans le ciel, en tout cas sur l'aspect spirituel,
oui,
il faut des chaussures en plomb. ça veut dire que, puisqu'on porte tous en nous des images idéalisées,
Issu du narcissisme,
voilà, narcissisme, c'est important d'être ancré dans la réalité, c'est-à-dire d'être en contact avec la réalité.
Oui. La réalité, bien, elle met les choses.
Voilà. Sinon, on peut, si on est trop dans l'idéal, on peut décoller en quelque sorte.
Alors, quelle est la première des choses à faire?
La première des choses à faire, c'est de prendre conscience de ces images idéalisées et qu'on projette un peu partout comme ça autour de nous. Et pour ça, on peut se laisser aller à penser à l'extrême. Pour le perfectionniste, s'il atteignait la perfection, ça serait comment? Qu'est-ce qu'il ferait, comment il serait, quelle image pourrait représenter ça. Alors pour certains, ça va être, je sais pas, d'être au dernier étage du plus haut building du monde, voilà, pour montrer qu'ils ont atteint les sommets. Pour d'autres, ça va être d'être comme Albert Einstein.
Selon le domaine.
Pour d'autres, comme tel ça, ou comme ou président de la République, ou enfin. Et donc, ça permet à la personne de découvrir une partie, en tout cas, de représentation possible de son idéal.
Ou le père ou la mère parfaite.
Aussi.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on, quand on a pris conscience de ça,
il faut le descendre du piédestal et dégonfler la baudruche finalement, parce que
illusion. Donc on relativise.
De relativiser l'image idéale, d'en découvrir les aspects narcissiques et irréels. Ça signifie pas pour autant qu'il faut pas prendre en compte ce qu'elle transmet comme valeur. Parce qu'il y a des bonnes choses.
Faut pas acheter le bébé et l'eau du bain. Avec l'eau du bain. Les valeurs sont à garder.
Les valeurs sont à garder. Ce qui est à éliminer, c'est tout l'aspect imaginaire, tout l'aspect représentatif imaginaire, pour ne garder que les valeurs.
Oui. Et puis, alors
Ensuite, c'est d'accepter la réalité de sa situation et de partir de là pour réaliser ses aspirations, mais tout en étant conscient de ses limites. Tous les chrétiens ont l'idéal de sainteté, mais on ne va pas tous devenir saints. On chemine vers, et d'accepter aussi, cette limite-là. Tant mieux qu'il y en ait qui y arrivent. Chacun chemine à son rythme.
Réaliser.
Autrement dit, de vraiment leur donner à l'idéal une dimension aux possibilités humaines et de le voir comme un panneau indicateur, parce que finalement, ce n'est qu'un panneau indicateur.
Une direction, pas la nature du chemin, ni le temps pour arriver à la destination, mais simplement un indicateur. Et la personne est bien ancrée,
Elle est bien ancrée dans ce réel, à ce moment-là, elle peut avoir des aspirations élevées, parce que c'est plus gênant. Parce que à tout moment,
elle a les pieds sur terre,
elle peut se rattacher à la réalité et mesurer le décalage et d'une façon saine, sans se critiquer, mais en acceptant ses limites.
Un grand merci Pascal Parinet, merci à tous nos éditeurs. Je rappelle le 23 et 24 mai, sortir de la dépendance affective, le stage. 4 et 5 juillet, la confiance en soi, estime de soi. un téléphone 06 60 15 79 60 et contact@ifpsy.com. Tous les renseignements sont au standard. Merci à Marielle et Laetitia qui étaient au standard ce soir, Marie, Marcel et Denis pour leur collaboration, Alexandre qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD et en podcast. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera le père Daniel Fouché du diocèse de Nantes. Donc le thème en cette veille de la veillée de Pentecôte, le thème de la soirée, souffle de la Pentecôte, l'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière, Jean chapitre 7, 16. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous. Le temps aussi, le temps de vous faire une petite annonce, puisque Fraternité en Irak organise donc un concert. Donc c'est plutôt Grégory Turpin qui chantera pour Fraternité en Irak. Et ça c'est donc le 18 mai à 20h30 à l'église Sainte-Thérèse de Boulogne-Billancourt, donc l'église Sainte-Thérèse, 18 mai 20h30, Grégory Turpin. Très bonne nuit à tous. Les renseignements sont au standard dans la journée.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.